Les élèves de l'option sport vont faire découvrir des sportifs de haut niveau.
Des professionnels du sport. Des coachs.
Des journalistes sportifs.
Éducateurs sportifs.
Kinés du sport.
Avec Cham Sport, on transpire les ondes.
Bonjour à tous, c'est Lucas de Radio Cham, accompagné d'Evan, de Nils, Lucas et Léa. Nous sommes en seconde option sport. En cette occasion spéciale du Printemps des Poètes, nous accueillons aujourd'hui Julie Gaucher, une historienne du sport et écrivaine, autrice d'un recueil intitulé « Et elles se mirent à courir », paru aux éditions du Volcan en 2022. Bonjour, alors tout d'abord, pouvez-vous rapidement vous présenter vous et votre parcours ?
Bonjour à tous. Eh ben mon parcours, j'étais là il n'y a pas si longtemps, prof de français à Chamalières, l'an dernier encore, hein, si je ne me trompe pas. Donc je suis enseignante de français et avant d'être enseignante de français, j'ai eu un parcours historienne du sport. C'est-à-dire que j'ai fait une thèse en co-direction en histoire du sport et en littérature et je me suis intéressée à la représentation du sport en littérature, donc au XXe siècle. Voilà, j'ai enseigné quelques années en UFR STAPS avant de rejoindre ma région de cœur qui est l'Auvergne. Récemment, on va dire que ça fait 6 ans depuis que je travaille dans le secondaire, je me suis intéressée à vulgariser finalement toutes les recherches que j'avais pu mener en histoire du sport, le but étant de les rendre accessibles à tous. Et donc je me suis tournée vers une écriture plus accessible et qui passe par d'autres médias et notamment par la presse, notamment dans une revue qui s'appelle Panard. Et l'an dernier, je me suis autorisée à écrire de la poésie.
Votre recueil se divise en 3 parties. Courir, nager et dans les gradins. D'abord, pourquoi ce choix ? Et si vous aviez imaginé une 4e partie, comment l'auriez-vous appelée et pourquoi ?
Ah, très bonne question. Alors, pourquoi ces choix ? La poésie, c'est quelque chose de profondément personnel, intime. Et j'ai une histoire de nageuse, alors nageuse à niveau régional, mais j'ai commencé la natation, j'avais 5 ans et j'ai quitté les bassins à plus de 25 ans. J'ai arrêté... Parce que la thèse demandait énormément de travail. Mais j'ai toute cette histoire de la nage. Et puis la course à pied, parce qu'on habite une région qui est juste incroyable, qui est exceptionnelle. C'est une activité qui est facile. On sort de chez soi, on met une paire de baskets et puis c'est parti. Et je trouve que c'est une très bonne façon d'appréhender le paysage. Et je suis particulièrement sensible au paysage des volcans. Et je trouve que c'est une façon voilà, de faire corps avec cette terre de feu, cette terre et cette nature. La 3e partie de mon recueil s'appelle « Dans les gradins » parce que prendre des fois un petit peu de distance sur ce qui se vit dans le corps permet de voir les choses autrement. Et j'avais envie de parler de choses qui se jouent un petit peu en marge du sport et qui pourtant lui donnent tout son sens. Et la 4e partie, si j'avais une 4e partie, très bonne question. De quoi j'aurais pu parler ? Je t'avoue qu'on m'a jamais posé cette question-là. Eh ben, je pense que j'aurais parlé de boxe. Voilà. J'ai pratiqué un petit peu la boxe. Je trouve que c'est un rapport au corps encore différent, mais qui, en tant que femme, peut aussi donner une assurance, c'est-à-dire être capable de jouer des points. C'est aussi une façon d'être capable d'être présente au monde et de ne plus avoir peur quand on est seul dans la nuit, le soir, en ville.
Nous avons choisi, mes camarades et moi, le poème « La Nouvelle » que je vais lire pour vous et nos auditeurs. La Nouvelle. J'ai été la Nouvelle, celle qui arrive en cours d'année quand les groupes sont formés. Les amitiés tissées, à la vie, à la mort. J'ai été la nouvelle, la dernière choisie quand on forme les équipes. Celle qui ne participe à aucun anniversaire, pas d'ici, étrangère. J'ai été la nouvelle, celle que l'on pointe du doigt, qui mange seule à la cantine, qui s'assit seule sur le banc à la récré, qui marche seule sur le chemin de l'école. J'ai été la nouvelle, étrange, citadine, transfuge, sans racines, du goudron urbain à la terre grasse d'un village de plaine céréalière. J'ai été l'étrangère. J'ai été la nouvelle, celle qui ne fait pas de bruit, ne lève jamais le doigt, frôle les murs, surtout ne pas se faire remarquer. J'ai été la nouvelle, mais en cours de PS, mon corps trépignait et rué, bouillant de vie, alors je n'étais plus discrète et silencieuse, invisible et exclue. J'étais celle qui courait vite, plus vite que les garçons, plus vite que les grands, je servais d'étalon aux performances des écoliers. Les grands, les garçons, et les filles aussi, ne me pardonnez pas de devenir visible quelques heures dans la semaine. Alors, j'étais peut-être une fille qui courait vite, mais comme j'étais l'étrangère, ce qui aurait pu faire de moi une championne, une amie, me changea en monstre. J'étais celle qui courait comme un garçon, et la comparaison, dans leur bouche, tenait de l'insulte.
Merci. Est-ce que je peux poser une question à mon tour, sans que ça soit un piège ? Pourquoi vous avez choisi ce texte ?
On a choisi ce texte, car on a bien aimé quand vous avez parlé de la vie de votre enfance, par exemple, que vous avez ressenti, par exemple, que le sport, bah, ça vous a un peu aidé, que vous étiez plus forte quand, parce que vous battez, par exemple, les hommes ou les garçons, vous êtes ressenti plus importante et moins seule. Et on a bien aimé quand, comme vous venez de la ville, que pour passer de la ville à la campagne, c'est vraiment pas si facile que ça. Et comme vous êtes aussi arrivé en cours d'année, bah, c'est pas facile de s'intégrer.
Merci. C'est amusant parce que ce poème, il a été choisi aussi par des enseignants pour parler du harcèlement à l'école.
Alors, à travers ce poème et d'autres, vous abordez les stéréotypes filles-garçons. Pourquoi autant insister sur cette problématique? Êtes-vous encore à votre âge féministe? Et si vous avez des enfants, est-ce que vous leur apprenez à ne pas se laisser embarquer dans les stéréotypes d'aujourd'hui?
Alors merci pour cette question, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour être féministe et heureusement, ça me fait penser, il n'y a pas si longtemps où on m'a posé la question et on m'a dit mais pourquoi t'es féministe finalement? Ah, t'as plutôt bien réussi dans la vie, c'est plutôt facile pour toi. Et j'ai envie de dire que pour moi l'égalité, puisque c'est le cœur du féminisme, la recherche d'égalité entre hommes et femmes, entre garçons et filles, elle devrait être au cœur de nos sociétés et au cœur des questionnements de tous, indépendamment de l'âge, indépendamment du statut social. Et finalement c'est une invitation à arrêter de se regarder le nombril, parce qu'effectivement pour moi tout va bien, mais en fait quand on ouvre les yeux, bah, ça va pas si bien que ça dans le monde en fait. Donc oui, je suis profondément féministe. Je pense qu'on a tous à gagner à lutter contre les stéréotypes. Et très souvent, c'est aux jeunes filles qu'on s'adresse ou aux femmes en disant ouvrez les yeux, faites votre chemin, faites votre route. Mais tant qu'on n'aura pas compris qu'on a tous à y gagner, y compris les garçons, y compris les hommes, je pense qu'on ne pourra pas avancer. Et en tant que maman, j'ai deux petits garçons. Et effectivement, c'est amusant parce que quand je me projetais en tant que maman, je me voyais maman de petites filles. Ça me paraissait. Je me disais que ce serait beaucoup plus simple pour le transfert de toutes ces valeurs. Et en fait, je pense que justement, changeons l'éducation de nos petits garçons pour qu'enfin ils soient respectueux. Et c'est pas opprimer les garçons et les petits garçons que de leur offrir une éducation féministe.
Alors vous employez des mots forts dans ce poème, l'étrangère, monstre, celle que l'on pointe du doigt. Mais du coup, vous avez été harcelée parce que vous veniez de la ville, parce que vous couriez plus vite que les garçons et parce que vous étiez différente.
Alors très bonne question, pourquoi on est harcelé? C'est toujours la grande question, pourquoi on est harcelé? En fait, il n'y a pas de vraie et de bonne réponse. C'est pourquoi on est harcelé? On est harcelé à un moment parce qu'on est différente. Bon, c'est la radio, on ne voit pas forcément. J'ai rien de particulièrement différent. J'étais juste la nouvelle, celle qui venait d'ailleurs, qui n'avait pas forcément les mêmes codes. J'avais commencé de grandir dans des cités HLM. Voilà, j'étais juste différente. Et il est toujours, disons, quand il y a une forme de malaise dans des groupes, on cherche un bouc émissaire. Le bouc émissaire, il est là parce que c'est commode, en fait, pour constituer une cohésion dans le groupe. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à cette époque, alors je suis pas un dinosaure, mais à cette époque, on ne parlait pas de harcèlement. C'est-à-dire que je l'ai vécu en tant que petite fille sage, à ne surtout pas le signaler à mes parents. Parce qu'en fait, si on m'en voulait, c'est que j'étais responsable de ce qui m'arrivait. Et aujourd'hui, je suis contente, en fait, de me dire que les lignes ont bougé et qu'on en parle. Je suis particulièrement vigilante en tant qu'enseignante à ces équilibres, à ces relations qui se tissent dans les classes, parce que être harcelé, c'est aussi se remettre en question sur ce qu'on en est en tant qu'individu. Donc oui, les mots sont forts, parce que c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais une petite fille, que j'étais tellement différente que je devais avoir quelque chose de l'ordre du monstrueux.
Portez-vous d'autres combats dans votre vie?
Alors, je pense que travailler sur les discriminations envers les femmes, et donc sur le sexisme, ne peut pas se comprendre et ne peut pas se vivre sans travailler sur tout type de discrimination. Et effectivement, autant en tant qu'individu et personne, mais aussi au niveau de mes travaux de recherche, j'ai travaillé sur tout ce qui est de l'ordre de discrimination raciale et tout ce qui est racisme, sur l'homophobie. Et je pense que les uns ne vont pas sans les autres. J'ai été beaucoup inspirée, j'ai été étudiée aux États-Unis, notamment à Berkeley. J'ai été beaucoup inspirée par tout ce qui est intersectionnalité et les combats des femmes noires américaines, qui pointe justement qu'en fait, être féministe, mais elle ne se reconnaissait pas dans les discours des féministes parce que pour elle, il y avait deux discriminations qui entraient en jeu. Il y avait la discrimination relative à leur couleur, mais aussi à leur sexe. Donc c'est des choses effectivement qui me tiennent à cœur.
Qu'est-ce que l'écriture de poèmes vous a apporté dans votre vie sportive?
Ah, c'est une super question. Alors déjà, ça m'a apporté dans ma vie tout court, puisque ce recueil, il a d'abord été écrit à l'hôpital. L'an dernier, je n'étais plus dans votre établissement parce que j'ai passé 15 jours à l'hôpital et enfermée dans une chambre de laquelle je n'avais pas le droit de sortir. Et finalement, La poésie, la seule chose que j'avais envie, c'était de partir en courant. J'avais peur. Je ne savais pas ce que j'avais. J'avais peur. Je pensais à mes petits garçons qui étaient dehors. Et quand on n'est pas bien, bah moi, j'avais qu'une seule envie, c'était de chausser les baskets et d'aller courir pour lâcher prise. Et je n'avais pas le droit de sortir de cette chambre. Donc finalement, l'écriture, ça a été un peu ma façon de m'extraire de ce milieu, de m'extraire aussi de toute cette inquiétude qui aurait pu me bouffer en 15 jours. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans votre remarque, et ça renvoie à ce que je pouvais faire en STAPS, j'avais des ateliers d'écriture en STAPS. Et je trouvais très intéressant pour les sportifs d'arriver à les faire écrire sur leurs sensations sportives, leurs sensations corporelles. Parce que parler du sport, c'est bien sûr, quand on est joueur de foot ou n'importe quel sport, parler de stratégie, parler de, je sais pas, de technique d'entraînement, mais c'est aussi parler de ressenti. Et tant qu'on n'est pas capable de mettre des mots sur les ressentis, et ben parfois la communication est compliquée avec l'entraîneur. On ne sait pas comment s'exprimer. Et donc, mettre des mots sur les sensations corporelles, je pense, m'a permis en tout cas personnellement de prendre conscience de cette joie de vivre que j'éprouve depuis des années dans la pratique physique, qui avait quelque chose d'extrêmement physique, mais là je l'ai conscientisé.
Pouvez-vous nous lire votre poème préféré et pourquoi ce choix ?
Alors poème préféré, je ne sais pas si j'ai un poème préféré, ça dépend souvent des gens que j'ai en face de moi, de l'auditoire, il y en a plein que j'aime selon les moments. Et d'ailleurs c'est amusant parce que quand je fais des lectures publiques, les gens n'aiment pas forcément tous les mêmes poèmes. Qu'est-ce que je vais vous lire ? Alors comme on est à l'école, je vais peut-être vous lire « Vie minuscule » d'une professeure d'éducation physique. Donc ce poème, il a été écrit en l'hommage d'une femme qui s'appelle Madeleine Delaunay. Il est venu chez moi un matin, à la main, une enveloppe marron, volumineuse, froissée. Son regard disait qu'il avait hésité. Il a saisi la tasse de café chaud que je lui ai tendue, il a posé son souffle, choisi ses mots et m'a parlé d'elle, sa mère. Elle était partie dans les brumes d'une conscience qui s'étiole. Elle laissait derrière elle des traces, celles de ses pointes sur la cendrée, celle de photos décolorées, les équipes sportives de sa jeunesse, celle de ses séances d'éducation physique, griffonnées sur de vieux cahiers de brouillon, écriture arrondie, qui conserve l'habitude des pleins et des déliés, rature qui ajuste les consignes en prenant la mesure des corps, brin d'herbe du terrain de sport où a été posé le calepin, trace d'une vie de professeur d'éducation physique à une époque où il fallait être têtu, sinon militante, pour exercer ce métier d'homme. De l'enveloppe Kraft, il a sorti des photos au cadre blanc dentelé, des bulletins d'information, de fédérations qui n'existent plus, quelques médailles, un manuel à la tranche cassée d'avoir été trop ouvert. Sans un mot, il m'a livré la vie de sa mère. Et devant les marques du temps passé, papier jauni, réalité d'un autre temps, dans le silence du partage et l'émotion de cet immense don, j'ai mesuré ce que je devais à cette femme que je n'avais jamais connue. Elle avait ouvert les portes du stade à mes aïeuls, à ma mère, à mes tantes. Elle avait donné la soif du grand air, de l'effort, aux jeunes filles d'hier qui, à leur tour, avaient pris les jeunes filles d'aujourd'hui par la main pour les conduire sur la cendrée. Alors on lit un poème souvent par rapport au contexte, donc je pense lycée, je pense professeur d'éducation physique, on lit aussi un poème par rapport aux rencontres. Et ce poème, il est au croisement de plusieurs rencontres. D'abord cette amie qui voit partir sa mère dans les brumes d'une semi-conscience, hein, elle est en maison de retraite et ses souvenirs s'étiolent, et qui me livre en fait des traces de sa vie. Ce poème, il est aussi à la rencontre dans la lecture publique d'une femme qui m'a bouleversée. Au cours d'une séance de dédicace, elle est venue, j'avais lu le texte, et elle m'a dit « J'ai passé une vie de professeur d'éducation physique et je n'avais jamais compris à quel point mon métier pouvait avoir du sens. » Et je crois que le visage de cette femme, il va rester longtemps dans ma mémoire parce que ça m'avait bouleversée. Quand on lance des mots sur le papier, de voir à quel point ils peuvent résonner chez d'autres, en fait. Voilà, et puis je pense aussi que ce poème, il est aussi au croisement de plein de choses dans ce recueil, c'est-à-dire que je suis historienne aussi parce que je sais et je veux me souvenir de ce que l'on doit. En fait, si on en est là aujourd'hui, c'est que avant, il y en a beaucoup qui se sont battus pour qu'on ait une place, notamment dans les stades, y compris ces minuscules qu'on ne voit pas, qui ne sont pas des championnes, on ne retient pas leur nom, et pourtant ils sont essentiels.
Avez-vous pratiqué le sport à haut niveau ?
Non, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu un niveau régional, j'ai pratiqué quotidiennement le sport, j'étais un petit peu touche-à-tout à une période. Pour moi, le sport, c'est un espace d'épanouissement, de joie de vivre, profondément de joie de vivre, mais je n'ai jamais fait de haut niveau.
Qu'est-ce que le sport vous a apporté et vous apporte encore ?
Alors le sport, il m'a permis de sortir la tête des livres, parce que j'étais une étudiante, une lycéenne, une étudiante, une collégienne assoiffée de lecture, de savoir, de connaissances. Et en fait, le sport, il m'a permis justement de me rattacher à la vraie vie, celle du corps. Donc ça, c'est la première chose. Le sport, il m'a apporté la camaraderie. Quand on regarde dans le recueil, vous voyez que ce sont des sports qui sont des sports individuels. Et pourtant, quelle belle équipe que l'équipe de nageurs et de nageuses, en fait. Et finalement, c'est un peu une seconde famille, c'est un peu un espace où on est chez soi, l'odeur du chlore, la chaleur de la piscine, et puis ces camaraderies qui sont tissées dès la plus jeune enfance, pour moi, ont vraiment du sens. Donc ça m'a apporté des relations sociales qui étaient extrêmement sereines et bienveillantes. Après être harcelée à l'école, quoi de mieux que de retrouver les copains qui sont au bord des bassins, en fait, hein, qui sont les vrais copains. Et puis cette joie de vivre très corporelle, très, très physique, en fait, hein, de se sentir vivant.
Merci. Et quelle est la célébrité que vous avez rencontrée lors de votre parcours sportif et que nous pourrions connaître aujourd'hui ?
Alors, question intéressante. C'est amusant parce que je pense qu'on n'a pas la même définition de célébrité. Moi, j'ai des maîtres à penser. J'ai eu la chance de travailler avec mes maîtres à penser. Je pourrais vous citer de noms d'historiens qui m'ont profondément marqué. Je suis pas sûre que vous les connaissiez. Michel Perrault, qui est historienne des femmes. J'ai eu la chance de l'avoir en cours à Paris. Georges Vigarello, qui a fait le déplacement à ma soutenance de thèse. Pour moi, c'est la personne qui m'a donné envie de faire de l'histoire du sport. J'ai eu la chance d'aller travailler aux États-Unis avec Suzanne Bundy, qui faisait un petit peu la même chose que je, enfin, en tout cas, ce que j'avais envie de faire sur la littérature américaine. Donc pour moi, ça, c'est mes célébrités avec des gros guillemets de cœur, puisque c'est vraiment, vraiment celles avec qui, voilà, qui m'ont touchée. Du côté sportif, je suis historienne, donc j'ai surtout travaillé dans les archives. Et pourtant, j'ai l'impression de connaître, d'avoir vécu avec Gertrude Ederle, qui était le modèle que j'avais jeune fille. C'est la première femme qui a traversé la Manche à la nage en 1926. Et donc pour moi, c'est la sportive que j'ai le plus rencontrée. Aujourd'hui, j'ai l'impression, parce que je travaille sur cette figure, de vivre un petit peu avec Alice Mia, qui est la femme qui a tenu tête à Pierre de Coubertin pour que les femmes aient le droit de rentrer aux Jeux Olympiques. Donc, je pense que vous ne vous attendiez pas à ce genre de réponse, mais là, ce sont les célébrités que j'ai le plus fréquentées. Après, en tant que conférencière, bah forcément, j'ai rencontré des journalistes sportifs, j'ai rencontré des sportifs, j'ai enseigné une année à la fac de Clermont dans ma classe, donc ça fait déjà quelques temps, j'avais Renaud Lavillenie, que vous connaissez, voilà, j'ai nagé avec la championne Béatrice Hess, qui a donné son nom à la piscine de Rion. Donc, que j'ai rencontré au cours d'une compétition. Donc non, des sportifs, j'en ai rencontré, je continue d'en rencontrer. Mais c'est surtout sur l'échange humain, en fait, que ça m'intéresse, puisque je ne suis pas dans l'idolâtrie d'une figure de champion.
Pratiquez-vous toujours la course à pied et la natation ?
Bonne question. Alors, très clairement, j'ai lâché prise sur un engagement en compétition avec mes études, parce qu'une thèse de doctorat, quand on travaille en même temps, ça demande énormément d'investissement. Donc j'ai lâché à ce moment-là. J'ai beaucoup déménagé puisque j'ai enseigné dans différentes universités. Donc se raccrocher à chaque fois à un club de sport, c'est compliqué. J'avais fait un peu de boxe quand j'étais sur Toulouse. Voilà, j'avais nagé en club à Toulouse aussi. Et aujourd'hui, donc j'ai essayé de me remettre au sport après deux grossesses. Voilà. Et je suis tombée malade l'an dernier, vous avez dû le comprendre à la lecture du recueil. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je reprends le sport, mais tout doucement, parce que j'ai quand même bien morflé. Voilà.
Et pour finir, comme nous sommes lycée hôtelier, quel est votre plat préféré ?
Alors, j'avoue que quand j'étais ici, j'adorais aller me servir dans le frigo de ce que vous prépariez. C'était juste incroyable. Alors, quel est mon plat préféré ? Je ne saurais pas répondre. Quel est mon plat préféré ? Alors, j'adore la crème brûlée. J'adore la crème brûlée.
Merci à Julie Gaucher et à nos journalistes pour cette interview enrichissante. On a pu aborder le sujet de la poésie tout en parlant du sport. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur le site de Radio Chem où vous pouvez écouter différents thèmes d'émission. Salut à tous.
Merci à vous.
Les élèves de l'option sport vont faire découvrir des sportifs de haut niveau.
Des professionnels du sport.
Des coachs.
Des journalistes sportifs.
Éducateurs sportifs.
Kinés du sport.
Avec Chem Sport, on transpire les ondes.